إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، nous continuons donc ce soir le premier des trois fondements exposés par l'imam Muhammad ibn Abd al-Wahhab al-Tamimi rahimahullah ta'ala. Et ce fondement, comme on l'a dit, c'est la connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui est sans aucun doute le fondement le plus important de notre religion. Et nous avons vu, la semaine dernière, le début de ce fondement et la première question que l'auteur rahimahullah a posée qui est ton Seigneur ? Ainsi que sa réponse, mon Seigneur est Allah, qui m'a éduqué et a éduqué l'ensemble de l'univers par ses bienfaits. Il est celui que j'adore et je n'adore nul autre que lui. Et nous avons vu ensemble l'explication ainsi que la preuve de cela lors de la précédente assise. L'auteur rahimahullah ta'ala a ensuite dit « فَإِذَا قِيلَ لَكْ بِمَا عَرَفْتَ رَبَّكْ » Et si on te demande « Comment as-tu connu ton Seigneur ?» C'est-à-dire, par quels moyens as-tu connu Allah subhanahu wa ta'ala ? Quelles sont les preuves t'indiquant l'existence d'Allah subhanahu wa ta'ala ? Et le shaykh rahimahullah, il va nous donner de cela des preuves textuelles, c'est-à-dire des preuves tirées des textes, et notamment des versets du livre d'Allah subhanahu wa ta'ala, ainsi que des preuves rationnelles, c'est-à-dire des preuves basées sur la raison. Il a donc dit, rahimahullah, « فَقُلْ بِآيَاتِهِ وَمَخْلُوقَاتِهِ » Réponds alors par ses signes et ses créatures. وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَمِنْ مَخْلُوقَاتِهِ السماوات السبع والأراضون السبع ومن فيهن وما بينهما. Parmi ces signes, il y a la nuit et le jour, le soleil et la lune. Et parmi ces créatures, il y a les sept cieux et les sept terres, ce qu'ils contiennent et ce qu'il y a entre eux. Le Cheikh rahimahullah ta'ala, il nous a donc exposé la réponse à cette question, qui est de savoir comment nous avons connu Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit que nous l'avons connu par ses signes et ses créatures. Il a donc distingué entre les signes d'Allah subhanahu wa ta'ala et ses créatures. Al-aya, le signe, désigne dans la langue arabe ce qui indique ou ce qui désigne une chose. Et les signes d'Allah subhanahu wa ta'ala, ils sont très nombreux. En effet, le terme aya, que l'on a traduit par signe, il est employé pour désigner différentes choses. Premièrement, il désigne les versets du Coran, al-ayat al-Qur'aniyya, les versets du Coran qui sont donc des signes d'Allah subhanahu wa ta'ala. Deuxièmement, le mot ayah, il désigne également les signes universels, al-ayat al-Qawniyya, c'est-à-dire toute la création. L'ensemble de la création d'Allah subhanahu wa ta'ala fait partie de ces signes. En effet, il n'y a pas une chose qui existe dans ce monde sans qu'il ne prouve et mette en évidence l'existence de son créateur. Comme il a été dit dans un vers de poésie, et en toute chose, il existe un signe indiquant qu'Allah est unique. Donc toutes les créatures font partie des signes d'Allah subhanahu wa ta'ala, d'al ayat al-qawniyya. La troisième chose qui peut être désignée par le terme aya, signe, ce sont les miracles des prophètes, alayhim salatu wassalam, qui sont également des signes d'Allah subhanahu wa ta'ala. Les gens de science, ils ont donc divisé al-ayat, les signes, en deux catégories. Al-ayat al-khawniyya, les signes universels, qui désignent donc toutes les créatures d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme le ciel et la terre, le soleil et la lune, les étoiles, les montagnes, les arbres, etc. Tout ceci sont des signes d'Allah subhanahu wa ta'ala. Car elles indiquent, toutes ces créatures, elles indiquent l'existence de quoi ? De leur créateur. Donc ceci sont les signes universels. Al-ayat, al-qawniyya. La deuxième catégorie de ayat, la deuxième catégorie de signes, ce sont les signes religieux. Al-ayat, al-shar'iyya. Et notamment donc, les versets du Coran. Al-ayat, al-qur'aniyya. Les versets que Allah subhanahu wa ta'ala a révélés à son messager, sallallahu alayhi wa sallam. Tous ces versets, ils nous prouvent l'existence d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et également, ils nous indiquent les noms et les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala qui nous permettent d'apprendre à connaître notre Seigneur. Car on le connaît à travers ses signes. Donc, les versets du Coran, on découvre ainsi dans ces versets les noms et les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. On découvre également à travers ceci qu'il est le seul à mériter l'adoration subhanahu wa ta'ala en dehors de tout autre que lui. Donc, à travers cette classification, c'est-à-dire les deux catégories de ayat, de signes, al-ayat al-qawniyya, les signes universels, donc on a dit qu'ils désignent l'ensemble des créatures, ou al-ayat al-shar'iyya, les signes religieux qui désignent donc les versets du Coran. On comprend donc à travers cela que toutes les créatures sont également quoi ? Ce sont également des signes d'Allah, des ayat. Cependant, on ne peut pas dire que tous les signes sont des créatures. Ceci est une erreur. Car tous les signes ne sont pas des créatures, mais seulement al-ayat al-qawniyya, seulement les signes universels. Quant aux ayat al-shar'iyya, les signes religieux, ils désignent la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est un de ses attributs, et donc, elle n'est pas créée. Donc, toutes les créatures sont des signes, mais ce n'est pas tout signe qui est créé. En effet, la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala est un de ses attributs qui n'est pas créé. À partir de là, vient la question de savoir pourquoi l'auteur, rahimahullah, a fait une distinction entre les signes, al-ayat, et les créatures, al-makhluqat. Sachant que les signes qu'il a cités, il a cité quoi comme signe ? La nuit et le jour, le soleil et la lune. Ces signes-là, ce sont des créatures d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ce sont des ayat qawniyya. Et les sept cieux et les sept terres, qu'il a mentionnés parmi les créatures donc, ce sont également des signes universels, tout comme le soleil, la lune, la nuit et le jour. Donc pourquoi le shaykh, rahimahullah, a différencié entre eux ? Certains savants ont dit en commentaire de cela que le shaykh, rahimahullah ta'ala, a tout simplement mentionné un terme spécifique après un terme plus général. Le terme spécifique, c'est les créatures. Et le terme plus général, ce sont les signes. Al-ayat, c'est plus large, pourquoi ? Car cela englobe les créatures et également les versets du Coran. Donc le shaykh, rahimahullah, il a mentionné ce terme plus général et il a mentionné ensuite un terme plus spécifique en visant les créatures d'Allah subhanahu wa ta'ala. D'autres savants ont donné une autre explication à cela. Ils ont dit que le mot ayat désigne un signe clair et évident. La nuit et le jour, le soleil et la lune sont donc des signes plus clairs et plus évidents que le signe présent dans les cieux et la terre. Pourquoi ? Car ces choses-là que l'auteur a mentionnées, rahimahullah, la nuit et le jour, le soleil et la lune, ils changent et s'alternent constamment. La nuit et le jour se suivent, le soleil et la lune ne cessent de s'alterner. Contrairement aux cieux et la terre qui sont présents, eux quoi ? Qui sont présents constamment. Matin et soir, le ciel et la terre, ils sont présents. Alors que la nuit et le jour, le soleil et la lune, ils viennent et ils partent. Ils s'alternent donc de manière continue. C'est pour cela que le signe présent en cela, en ces créatures, est plus clair et plus évident pour celui qui est questionné. Mais en réalité, toute personne douée de raison et de clairvoyance sait qu'il y a également un signe immense dans la création des cieux et de la terre, comme Allah subhanahu wa ta'ala l'a mentionné dans son livre. On pourrait également dire que l'auteur, rahimahullah, il a fait cette distinction entre les signes et les créatures, respectant ainsi les termes employés dans les versets qu'il a amenés comme preuve. En effet, dans le premier verset qu'il a cité, Allah subhanahu wa ta'ala a dit « وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ » Parmi ces signes, il y a la nuit et le jour, le soleil et la lune. Donc le shir, rahimahullah, il a mentionné ceci comme étant des signes d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et dans le deuxième verset qu'il a mentionné, Allah subhanahu wa ta'ala a dit « إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ » Votre Seigneur, c'est Allah qui a créé les cieux et la terre. Donc on pourrait dire aussi que l'auteur, rahimahullah, a voulu ici être fidèle au terme mentionné dans les versets qu'il a exposés comme preuve de ce qu'il a dit, rahimahullah ta'ala. Il a donc dit, rahimahullah, si on te demande comment as-tu connu ton Seigneur, dis par ses signes et ses créatures. Parmi ces signes, il y a la nuit et le jour, le soleil et la lune. Et parmi ces créatures, il y a les sept cieux et les sept terres, ce qu'ils contiennent et ce qu'il y a entre eux. Ensuite, l'auteur, rahimahullah ta'ala, a dit « وَالدَّلِيل قَوْلُهُ تَعَالَى » Et la preuve est la parole d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Comme on l'a dit, le cheikh, rahimahullah, il n'aborde pas une question sans en mentionner sa preuve. Il a donc mentionné ce verset qui est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui est le verset 37 de la sourate Fussilat, où Allah subhanahu wa ta'ala a dit وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ لَا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرُ وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ إِن كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ. Parmi ces signes, il y a la nuit et le jour, le soleil et la lune. Ne vous prosternez ni devant le soleil, ni devant la lune, mais prosternez-vous devant Allah qui les a créés, si c'est lui que vous adorez. Donc ce verset, il nous prouve ce que l'auteur a mentionné, rahimahullah ta'ala, que la nuit et le jour, le soleil et la lune, font partie des signes d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ils font même partie, comme on l'a dit, des signes les plus clairs et les plus évidents de l'existence d'Allah subhanahu wa ta'ala. En effet, comment ce jour et cette nuit, ainsi que ce soleil et cette lune, peuvent constamment s'alterner, quotidiennement, de manière précise? Comment ceci pourrait avoir lieu sans l'existence de leur créateur? Il n'y a donc pas de doute que le soleil et la lune, ainsi que la nuit et le jour, font partie des signes les plus clairs et les plus évidents de l'existence d'Allah subhanahu wa ta'ala. On tire également comme bénéfice de ce verset, et notamment à travers la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. La tasjudu lishamsi wa la lil qamar. Ne vous prosternez ni devant le soleil, ni devant la lune. Les gens de science ont dit que le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala ait interdit cela dans ce verset nous prouve qu'il y avait au moment de leur révélation des gens qui adoraient le soleil et la lune et se prosternaient pour eux. Ceci est une réfutation de ceux qui prétendent que les polythéistes vers lesquels le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été envoyé n'adoraient que des statues en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. En effet, ils disent que le shirk, le polythéisme, c'est seulement le fait d'adorer des statues en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il n'y a pas de doute que ceci est totalement faux, comme nous le prouve ce verset. Ainsi que d'autres versets, et cette question, on la verra plus en détail, incha'Allah ta'ala, lorsque l'on étudiera le livre « Les quatre règles » bi'idhnillahi ta'ala. Le shir rahimahullah, dans la troisième règle, il a réfuté cette ambiguïté de façon détaillée, en mentionnant les différentes preuves que les polythéistes adoraient, autres que les statues, au temps du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et parmi ces preuves, il y a ce verset. « La tasjudu lishamsi wa la lilqamar » Ne vous prosternez ni devant le soleil, ni devant la lune. Pourquoi ?« Wasjudu lillahi alladhi khalaqahunna » Mais prosternez-vous devant Allah qui les a créés. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui a créé ce soleil et cette lune devant lesquelles vous vous prosternez. Alors, pourquoi vous prosternez-vous devant ces créatures et vous délaissez la prosternation pour leur créateur. Allah subhanahu wa ta'ala, il s'est donc servi dans ce verset du tawhid al-rububiyya comme preuve de l'obligation du tawhid al-uluhiyya. C'est-à-dire qu'il s'est servi de l'unicité dans la seigneurie, du fait qu'il est celui qui a créé le soleil et la lune, comme preuve qu'il est le seul à mériter l'adoration, et parmi les formes d'adoration, le sujoud, la prosternation. Ensuite, il a dit, subhanahu wa ta'ala, « Wasjudu lillahi alladhi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun. » Mais prosternez-vous devant Allah qui les a créés, si c'est vraiment lui que vous adorez. Les gens de science ont mentionné que ceci est une preuve également que quoi ? Que les polythéistes vers lesquels le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été envoyé, ils adoraient Allah subhanahu wa ta'ala. En effet, Allah subhanahu wa ta'ala leur dit « Mais prosternez-vous devant Allah qui les a créés, si c'est vraiment lui que vous adorez. » Si c'est vraiment lui que vous adorez, c'est-à-dire qu'ils adoraient Allah subhanahu wa ta'ala. Mais ce qui leur était reproché, et ce pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a combattus, et ce pourquoi ils ne sont pas rentrés dans l'islam, c'est parce qu'en plus d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qu'ils faisaient ? Ils lui donnaient des associés, et adoraient, autre que lui, subhanahu wa ta'ala. Donc ce verset, il nous prouve, premièrement, qu'il y a parmi les plus grands signes d'Allah subhanahu wa ta'ala, la nuit et le jour, le soleil et la lune. Deuxièmement, il nous prouve l'interdiction de nous prosterner pour autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Et parmi cela, le fait de se prosterner devant le soleil ou devant la lune. Troisièmement, il nous prouve que les polythéismes vers lesquels le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été envoyé, leur polythéisme, il ne se limitait pas à l'adoration des statues en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais ils adoraient deux choses multiples, et parmi elles, le soleil et la lune. Quatrièmement, ce verset il nous prouve que Allah subhanahu wa ta'ala, comme il est celui qui a créé le soleil et la lune, la nuit et le jour, ainsi que tout le reste des créatures, donc qu'il est l'unique dans sa seigneurie, ceci nous prouve qu'il est le seul à mériter l'adoration. Comme il a dit subhanahu wa ta'ala, « Wasjudu lillahi alladhi khalaqahunna » Mais prosternez-vous devant Allah qui les a créés. Cinquièmement, il nous prouve que les polythéistes vers lesquels le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été envoyé, ils adoraient également Allah subhanahu wa ta'ala. Ils faisaient des aumônes, ils avaient certains actes d'adoration qu'ils vouaient à Allah subhanahu wa ta'ala. Mais ce qui leur a été reproché est d'avoir donné des associés à Allah subhanahu wa ta'ala dans l'adoration et d'avoir voué des adorations à autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est pour cela qu'ils ne sont pas rentrés dans l'islam. Ensuite, le cheikh rahimahullah ta'ala a dit « Wa qawluhu ta'ala » إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. Ensuite il a dit et sa parole, c'est-à-dire également parmi les preuves de ce qu'il a dit, il y a sa parole subhanahu wa ta'ala. Selon la traduction des sens rapprochés, votre Seigneur, c'est Allah qui a créé les cieux et la terre en six jours, puis s'est établi au-dessus du trône. Il couvre le jour de la nuit qui poursuit celui-ci sans arrêt. Il a créé le soleil, la lune et les étoiles soumis à son commandement. La création et le commandement n'appartiennent qu'à lui. Toute gloire à Allah, Seigneur de l'univers. Donc, dans ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala nous informe que c'est lui qui a créé les cieux et la terre. Et ceci est donc une des preuves de sa seigneurie subhanahu wa ta'ala. Le fait qu'il a créé les cieux et la terre et que personne d'autre que lui n'a créé quoi que ce soit en ceci. Et nul ne l'a aidé à cela subhanahu wa ta'ala, car il se passe de l'univers. Et il est le seul à avoir créé les cieux et la terre subhanahu wa ta'ala. Et aucune personne parmi les polythéistes ne s'est opposée à cela. Ils ne prétendaient pas que leurs idoles avaient le pouvoir de créer. Nul n'a dit ça. Mais comme on l'a dit, La chose sur laquelle ils se sont opposés au prophète sallallahu alayhi wa sallam consiste au fait de vouer l'adoration exclusivement à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il a créé les cieux et la terre en 6 jours pour une sagesse que lui seul connaît subhanahu wa ta'ala. Car en réalité, il est capable de les créer en un instant, mais de par sa sagesse subhanahu wa ta'ala, et pour une raison que lui seul connaît subhanahu wa ta'ala, il a créé les cieux et la terre en 6 jours. Le premier de ces jours était le dimanche et le dernier le vendredi. Le vendredi, il a donc terminé la création des cieux et de la terre. Et c'est pour cela que le vendredi est le jour le plus important de la semaine. Et c'est même notre fête hebdomadaire. Le vendredi est le meilleur des jours de la semaine. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith rapporté par Muslim, d'après Abi Hurayrata radiyallahu ta'ala anhu, dans lequel le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, le meilleur jour sur lequel le soleil s'est levé est le jour du vendredi. C'est donc le meilleur jour de la semaine. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans ce verset, ثم استوى على العرش. Puis il s'est élevé au-dessus de son trône. Le trône, c'est le plafond des créatures, car c'est la créature la plus élevée parmi les créatures d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est la plus immense des créatures. Il n'y a pas de créature plus immense que le trône d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il s'est donc élevé au-dessus de son trône subhanahu wa ta'ala. Et l'élévation, c'est un des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala qui convient à sa majesté et qui n'est pas semblable à l'élévation d'une créature au-dessus d'une autre créature. Car Allah subhanahu wa ta'ala, il n'a pas besoin du trône. Il n'a pas besoin de son trône. Mais c'est le trône qui a besoin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Pourquoi? Car c'est une créature. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui l'a créé. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il se passe du trône. Et il se passe également de l'ensemble de l'univers, de l'ensemble de ses créatures. Mais il s'est élevé au-dessus de son trône également pour une sagesse et une raison que lui seul connaît subhanahu wa ta'ala. Donc al-istiwa, l'élévation, fait partie des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala qui conviennent à sa majesté. Ensuite il a dit subhanahu wa ta'ala, yughshi al-layla an-nahar yatlubuhu hathitha. Il couvre le jour de la nuit qui poursuit celui-ci sans arrêt. C'est-à-dire que Allah subhanahu wa ta'ala, il fait que la nuit, elle recouvre le jour. Et elle poursuit le jour sans arrêt. C'est-à-dire que dès que vient le jour, la nuit vient après et le recouvre, comme un vêtement. Elle vient le recouvrir, on se retrouve donc dans l'obscurité. Et ceci fait également, comme on l'a dit, partie des signes d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ensuite il a dit subhanahu wa ta'ala, وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومَ مُسَخَّرَاتٍ بِأَمْرِهِ. Et il a créé le soleil, la lune et les étoiles soumis à son commandement. Toutes les créatures d'Allah subhanahu wa ta'ala, que ce soit le soleil, la lune ou les étoiles, ainsi que tout ce qu'il y a dans cet univers, toutes les créatures sont soumises au commandement d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils font ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur a ordonné. Ensuite, il a dit subhanahu wa ta'ala, ala lahu al-khalqu wal-amr. C'est à lui qu'appartiennent la création et le commandement. Allah subhanahu wa ta'ala, il a donc distingué dans ce verset entre deux choses. La création, qui est le fait de créer, de faire exister une chose à partir du néant. Et Allah subhanahu wa ta'ala, comme on le sait, il crée ce qu'il veut et comme il veut. Quant au commandement, il désigne les ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ses ordres universels, ainsi que ses ordres religieux. Ses ordres universels, c'est-à-dire ce qu'il ordonne à ses créatures et qui lui obéissent, comme le soleil et la lune qui suivent leur cours sous l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala, sous l'ordre universel d'Allah subhanahu wa ta'ala. Quant à son ordre religieux, al-amr shar'i, il désigne la révélation qu'il a descendue
sur son prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et dans laquelle il ordonne à ses serviteurs de l'adorer seul sans associé. Le fait qu'il nous ordonne la prière, qu'il nous ordonne la zakat, qu'il nous ordonne la bonté envers les parents, tout ceci fait partie de l'ordre religieux d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et tous les ordres qui sont présents dans le Coran et dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam font partie de l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Al-amr al-shar'i, l'ordre religieux. Donc, on voit que dans ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala a distingué entre quoi ? Entre la création et le commandement. Il a différencié entre al-khalq ou al-amr. Et tout ceci appartient à Allah subhanahu wa ta'ala. Et ce verset nous prouve donc la distinction et la différence entre l'ordre et la création. C'est donc une réfutation de ceux qui disent parmi les gens de l'innovation que le Coran est créé. Ce verset, c'est une réfutation de ceux qui disent que le Coran, qui est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, est créé. En effet, dans ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala a distingué entre quoi ? Entre al-khalq et al-amr. Il a dit la création et le commandement n'appartiennent qu'à lui. Ils n'appartiennent qu'à Allah subhanahu wa ta'ala. Et le Coran, il fait partie du commandement religieux d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il n'est donc pas créé. Il n'est donc pas créé. Et c'est pour cela qu'Allah subhanahu wa ta'ala a fait cette distinction dans ce verset. Ce verset, il est donc une réfutation des Jahmiya et autres parmi les gens de l'innovation qui ont prétendu que le Coran était créé. En effet, Allah subhanahu wa ta'ala a distingué entre l'amr et l'khalq. Il a distingué entre le commandement et la création. Ensuite, il a dit subhanahu wa ta'ala tabarakallahu rabbul alamin. Toute gloire à Allah, Seigneur de l'univers. On a donc terminé la réponse à cette question qui est « Comment as-tu connu ton Seigneur ?» Ensuite, l'auteur, rahimahullah ta'ala, a dit « وَالْرَبُّ وَالْمَعْبُودِ » Et le Seigneur est celui qu'on adore. Et ce sera le sujet de notre cours de la semaine prochaine, Inch'Allah ta'ala. Je demande à Allah, subhanahu wa ta'ala, de nous faire profiter de ce que l'on a dit. Et je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous compter parmi ses serviteurs monothéistes et qui suivent avec ferveur la sunna de son prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Tout comme je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de raffermir mon cœur ainsi que les vôtres sur sa religion jusqu'au jour de sa rencontre. Wa sallallahumma wa sallim wa barik على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين والحمد لله رب العالمين وجزاكم الله خيراً.